Bonjour à tous, je m'appelle Catherine Olluet, je suis journaliste santé et j'ai la très honorable mission d'animer cette table ronde. Le professeur Delfrécy a donné le ton ce matin lors de la première table ronde. Il a dit que nous sommes en panne sèche en ce moment en France sur la façon de construire la santé publique et que personne en ce moment n'y réfléchit. Voilà, au moins c'est clair. Pour se demander ce matin s'il y a un pilote dans l'avion santé en France, nous avons avec nous un magnifique plateau d'intervenants. Nous avons avec nous Madame Julie de Victor, qui est présidente du Conseil national professionnel des infirmières en pratique avancée et elle-même infirmière en pratique avancée à l'hôpital Beaujon de la PHP. Nous avons Monsieur Nicolas Revel, qui est le directeur général de l'assistance publique hôpitaux de Paris, la PHP, qui regroupe 38 hôpitaux et 100 000 personnels, petit rappel. Monsieur Nicolas Revel, qui a également dirigé la Caisse nationale d'assurance maladie et qui a été directeur de cabinet du Premier ministre Jean Castex entre 2020 et 2022, notamment. Avec nous également, à votre gauche, le professeur Lionel Collet, qui préside la Haute Autorité de Santé. Vous avez présidé de nombreuses autres organisations également. Vous avez présidé le Conseil d'administration de Santé publique France. Vous avez présidé l'EPRUS, l'établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires, l'Institut de veille sanitaire également. Et vous êtes médecin, donc ORL et psychiatre. À votre gauche, Monsieur Thierry Hulot, président du LEM, qui est l'organisation professionnelle des entreprises du médicament, qui regroupe 270 entreprises, près de 100 000 salariés. Vous êtes également président directeur général de Merck France et pharmacien de formation. Voilà, donc un très beau plateau, comme je vous l'ai dit. Alors, y a-t-il un pilote dans l'avion santé en France? On peut se poser la question, ne serait-ce qu'en constatant la valse des ministres de la Santé depuis les dernières années. Un certain nombre de ministres se sont succédés, ça dépend comment on compte, si on compte les ministres de plein exercice et les ministres délégués, donc de nombreux ministres. À votre avis, pourquoi une telle instabilité ministérielle? Est-ce que ça veut dire tout simplement que ce poste de ministre de la Santé est devenu intenable? Professeur Collet, peut-être?
Merci de me confier la tâche. Vous savez, j'ai pris mes fonctions il y a un an comme président de la HAS. Et effectivement, en un an, j'ai rencontré 5 ministres de la Santé. Seulement, pour moi, la question n'est pas le nombre de ministres de la Santé. On peut expliquer pourquoi on est à 5. Je veux dire, on sait qu'il y en a un qui a démissionné, qu'il y a une ministre qui n'a pas été réélue, qu'il y a quelqu'un qui assure un intérim. Donc, il faut être très prudent sur ce nombre. Ce qui est important, c'est la continuité de l'État. Ce n'est pas parce que j'ai été conduit à rencontrer 5 ministres de la Santé que je n'ai pas vu une administration qui fonctionnait, qui avait une impulsion et qui était. Ce qui ne veut pas dire que le ministre ne soit pas important, il est absolument indispensable, on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Mais le système a montré qu'il savait fonctionner. Et je rappelle quand même, pardonnez-moi, mais que la mission première de la Haute Autorité de Santé, c'est d'évaluer la qualité du système de santé. Et ce système de santé, si sa mise en place, son initiation repose effectivement sur des décisions politiques, sa mise en œuvre repose sur une administration qui est très robuste dans notre pays. Voilà.
Monsieur Revel, quel est votre point de vue? Est-ce que, selon vous, ce poste de ministre de la Santé est intenable aujourd'hui?
Non, je ne vais pas répondre à cette question.
Ah, dommage.
Non, je vais simplement, avec vous, faire le constat qu'en effet, c'est une vraie difficulté d'avoir autant de ministres en si peu de temps. Et quelque part, la question qu'il faut se poser, c'est que c'est au-delà d'ailleurs du nombre de ministres qui se sont succédés. Chaque fois, il y a une raison singulière qui fait qu'on peut difficilement en tirer une conclusion. Moi, je pense que l'autre circonstance aggravante, c'est que les périmètres ministériels ont beaucoup bougé. Et qu'on a eu des ministres qui avaient à la fois la santé, les affaires sociales, les personnes âgées, mais pas les personnes handicapées. Bon, et tout ça a beaucoup bougé. Moi, j'ai une conviction, en réalité, si on veut régler la question, non pas de savoir si c'est intenable, mais c'est de créer les conditions d'une stabilité, parce que la stabilité, elle est quand même très importante, y compris pour les administrations qui travaillent sous l'autorité des ministres. C'est d'avoir un ministère qui prennent la santé, mais qui soient sur un périmètre large, large avec les affaires sociales, les personnes âgées, les personnes handicapées, et qui, je le dis, parce que j'en ai la conviction, soit confiée à une personnalité politique de poids. Parce que quand on regarde la différence entre le bloc santé, la partie économie et finances, l'intérieur, la défense, la stabilité est très souvent allée avec des périmètres larges et cohérents et avec des choix de personnalités qui ont du poids politique. Voilà. Et donc je pense que c'est vers cela qu'il faut aller. D'ailleurs, on est dans une configuration aujourd'hui avec une ministre Catherine Vautrin qui a un périmètre extrêmement large et qui est une personnalité politique. Moi, je suis prêt à mettre une pièce sur le fait que les conditions, sauf crise politique imprévisible, sera que... Voilà. Je pense que c'est important parce que si, comme Lionel l'a indiqué, on a des administrations robustes qui fonctionnent, je pense qu'on y reviendra. Jean-François Delfraissy l'a dit, on a besoin d'avoir des caps stratégiques. Voilà. Et pour ça, il faut que des conditions soient réunies au niveau politique.
Monsieur Hulot, pensez-vous que l'équipe actuelle, donc Madame Vautrin et son ministre délégué Monsieur Valtou, ont le poids politique suffisant pour qu'il y ait un petit peu de stabilité? Et est-ce que ça pose un problème, ce turnover?
Le problème, ce n'est pas le pilotage, c'est qu'on a perdu la boussole. On a un cap qui a été défini lors de Ma Santé 2030, extrêmement ambitieux, et ensuite, il y a un pilotage qui est fait au plus près. Quand on est assis à côté de Lionel Collet, on ne peut pas dire que la HAS n'est pas pilotée. Il y a un vrai pilotage de l'administration au quotidien et qui assure une stabilité. Par contre, c'est la boussole et la tour de contrôle, où à la fois, on veut tout et son contraire. Donc dans Ma Santé 2030, on veut être... en termes de médicaments, ce que je représente et les entreprises du médicament, leader de la recherche, de l'innovation en santé au service de nos concitoyens. Et puis le lendemain matin, on a un PLFSS qui proclame tout et son contraire, et surtout son contraire. Donc on est dans cet effet de la double peine pour les entreprises, plus de baisse de prix, plus d'impôts via des taxes extraordinaires, et pour les patients, et c'était très bien reflété dans l'étude précédente, ben la double peine aussi, les produits innovants arrivent moins, les produits matures, on l'a vu ces derniers jours, sont en train de partir. Donc le problème pour moi, c'est le pilotage, c'est la boussole, parce que pour piloter, pour exécuter, il y a une administration qui est en place et qui prend le relais, et qui, fort heureusement, je remercie Lionel, quand la boussole tourne dans tous les sens, garde le cap dans la tempête, mais cette direction, et je crois que ça avait été dit en introduction, il faut un objectif ambitieux pour la santé des Français, il faut s'en donner les moyens, et les moyens, ce n'est pas obligatoirement plus de ressources, c'est plus d'efficience. Je crois qu'il y avait d'excellentes propositions dans la mission sur la régulation et le financement du médicament, mais là, elles sont sur la table depuis 9 mois et on attend.
Julie de Victor, vous représentez les praticiens de terrain dans cette table ronde en tant qu'infirmière de pratique avancée. Comment vous ressentez-vous cette instabilité ministérielle?
Alors, je partage tout à fait ce qui a été dit. Finalement, pourquoi c'est la valse des ministres? Il y a plein de raisons entre la démission, la non-réélection, etc. Par contre, effectivement, le constat, c'est que c'est compliqué d'avancer. C'est-à-dire que les besoins sont connus de tous. Le cap est à peu près défini, notamment dans certains plans santé très ambitieux, mais maintenant c'est comment on y va. Moi je suis représentante d'une profession naissante dans le système de santé, donc mouvante aussi, parce qu'on a besoin de réadapter le cadre législatif, réglementaire régulièrement. Donc ça veut dire pour nous, représentants de cette profession, d'à chaque fois, déjà réussir à se faire connaître auprès des décideurs politiques, ce qui n'est pas simple. Hein. Si c'est une difficulté pour M. Revel d'avoir des nouveaux ministres à chaque fois, j'imagine quand même que son accès à ces ministres est assez facilité, pas le mien, par exemple. Donc il faut de nouveau se faire connaître, il faut de nouveau aller convaincre le ministre qui est en place, ce qui n'est pas simple, alors qu'on avait réussi avec le précédent ministre à commencer à travailler ensemble, etc. Et puis après, il faut convaincre de prendre des décisions politique législative importante, ça a été le cas avec la loi RIST de mai 2023, loi RIST qui n'est toujours pas en application à l'heure actuelle, parce que qui dit loi dit ensuite travail technique réglementaire avec les administrations, administrations alors elles qui sont relativement stables et qui nous connaissent pour le coup très bien. Mais malgré tout, pour que le décret paraisse, il faut de nouveau un arbitrage politique. Et donc on en revient à se réadresser à un ministre qui est nouveau, qui ne connaît pas le sujet, voir un Premier ministre qui fait des annonces parfois un peu déroutantes, comme quand il parle de la valorisation de la profession infirmière en disant on va faciliter les passerelles vers le métier de médecin, je ne crois pas qu'il y ait un représentant des infirmiers qui ait dit que c'était la solution pour valoriser la profession infirmière, d'autant plus que concrètement, d'une, ça existe déjà, de deux, les IAD qui sont formés plusieurs années, qui ont une pratique, etc., le temps qu'ils reprennent leurs années de médecine, on va avoir des nouveaux médecins à 50 ans, enfin, ça n'a pas de logique, c'est des annonces politiques, mais qui finalement, concrètement, dans la pratique, ne répondent à aucun bon sens. Donc nous, on a besoin d'une stabilité, effectivement, avec, comme le disait M. Revel, je partage tout à fait, hein, une personnalité forte, qui puisse aussi porter, et on en parlera dans un sujet suivant, porter la parole des professionnels de santé qui, eux, ont la connaissance technique du terrain, et la porter, y compris vis-à-vis d'autres ministères qui, peut-être, ont un poids plus important que le ministère de la Santé pour certaines prises de décision.
Gardez donc la parole, vous avez raison. Problème de pilotage ou problème de boussole, on peut se demander qui aujourd'hui prend les décisions, quand des décisions sont prises, entre le ministère de la Santé, voire un autre ministère, comme vous l'avez souligné, peut-être le ministère des Finances, les agences régionales de santé, les CHU, l'assurance maladie, les médecins ou les industriels, qui aujourd'hui a le pouvoir sur la santé en France? Votre vision là-dessus, Madame de Victor?
Alors encore une fois, hein, c'est ma vision très singulière de représentante d'une profession naissante et aussi, j'ai envie de dire, infirmière. Alors la plus importante dans le panel de santé en termes de nombre, mais sûrement pas la plus importante en termes de, d'association aux décisions politiques. On est quand même assez peu visible finalement, que ce soit à l'Assemblée nationale, au Sénat ou même en tant que conseiller technique dans les ministères. Donc accès là pour vraiment faire entendre les besoins de terrain et comment on pourrait améliorer à la fois le système de santé et aussi améliorer les conditions de travail alors de la profession infirmière, mais aussi en termes de collaboration interprofessionnelle, je pense qu'on a besoin d'être beaucoup plus entendu. Alors moi, je vais vous citer un ou deux exemples concrets de ce qui se passe pour nous actuellement. Je vous l'ai dit, il y a la loi RIST qui permet l'accès à la primo-prescription pour les IPA, qui évidemment fait bondir un certain nombre de médecins, mais les médecins notamment avec lesquels nous ne discutons pas, parce que quand on leur explique quels sont les besoins, en fait, c'est vraiment du pratico-pratique. On n'a pas envie de leur voler le diagnostic ou d'être dangereux pour la population. Bien au contraire, on a besoin d'outils pour fluidifier notre pratique de tous les jours. Un exemple tout bête, hein, les IPA ne peuvent pas introduire de prescription de compléments nutritionnels oraux pour des patients pour lesquels, par exemple, elles auraient dépisté un problème de dénutrition qu'il faudrait prendre en charge rapidement. Moi, je travaille en oncologie. Ce que actuellement me permet la loi et les décrets, c'est d'aller taper au bureau de l'oncologie qui est probablement en train d'annoncer le diagnostic de cancer à une jeune patiente de 25 ans pour lui dire « Est-ce que tu peux me signer mon ordonnance de Fortimel ?» Bon, vous voyez, en pratique, en fait, on est extrêmement embêté. Alors, évidemment, on ne le fait pas. Du coup, on agit dans un cadre réglementaire qui n'est pas conforme. Ça nous met en difficulté. Ou alors, quand on se met dans une pratique qui répond au cadre réglementaire, le médecin tombe des nues en disant « Tu ne vas pas m'embêter pour signer une ordonnance de Fortimel. » ce que j'entends parfaitement. Donc moi, ce que je dis très souvent à l'administration, c'est « S'il vous plaît, donnez-nous des moyens réglementaires législatifs en lien avec la pratique de terrain, les besoins de terrain. » Alors, je suis en train de vous parler de cette histoire de compléments nutritionnels oraux parce qu'on a remis une liste de besoins en termes de primo-prescription au ministère de la Santé, à la DGOS, qui les comprend parfaitement bien. On s'est dit qu'il va y avoir une grande résistance des médecins. Il se trouve qu'avec les CNP, les représentants médicaux, on s'entend parfaitement bien, on avance parfaitement bien, on se comprend parfaitement bien. Et là, la DGOS nous dit, premier arbitrage, non, vous n'avez pas la liste demandée commune pour l'ensemble des IPA. Et clairement, ça ne vient pas du ministère de la Santé. Donc, on en déduit, même s'ils ne le disent pas probablement par politesse, que ça vient, c'est une décision unilatérale du ministère de l'Économie et des Finances. Sauf que ces personnes-là, on ne les rencontre jamais. Et finalement, si on les rencontrait et qu'on leur expliquait que c'est un investissement, et j'entendais sur la table précédente, madame, qui parlait d'investissement dans la recherche, je crois que maintenant, on a besoin d'investir massivement dans la prévention et de donner les outils à l'ensemble des professionnels de santé d'investir ce champ de la prévention et de la promotion de la santé qui nécessite, entre autres, un certain nombre de nouveaux outils pour eux qui passent parfois par la prescription. Et ce n'est pas voler le travail du médecin que de prescrire dans le cadre du renforcement de la prévention ou de la promotion de la santé.
Merci, madame de Victor. On va s'adresser maintenant à votre patron, finalement, monsieur Revel, directeur de la science publique hôpitaux de Paris, premier CHU de France, premier employeur d'Île-de-France. Est-ce que cela vous donne un poids, des prérogatives pour décider, pour faire partie des décideurs du monde de la santé aujourd'hui?
J'exerce les responsabilités d'un directeur de CHU, point. Je vais essayer de reprendre votre question, peut-être, qui est en gros de savoir, hein, est-ce qu'on n'a pas un paysage trop complexe avec beaucoup d'institutions et finalement, comment tout ça se régule et qui décide à la fin? Moi, depuis que j'exerce dans le champ de la santé, comme vous l'avez dit, j'ai dirigé la Caisse nationale d'assurance maladie, j'entends ça depuis toujours. Il y a trop d'acteurs dans le système de la santé. J'avoue que ça ne m'a jamais complètement convaincu. D'abord, parce que je pense que quand vous regardez autour de nous les pays, il y a toujours un paysage de gouvernance qui est quand même finalement assez riche et qui peut d'ailleurs chaque fois se comprendre. On ne va pas être trop long pour rentrer dans sous détail. Et quand on cherche à se dire, mais qu'est-ce qu'on simplifierait donc? Est-ce que finalement, il y a le ministère qui régule les tarifs hospitaliers, l'assurance maladie, ceux de la ville, il faudrait fusionner? Ce serait beaucoup plus simple. Creuser un peu, ce n'est pas si simple. Si vous dites qu'il faut un seul régulateur, si c'est le ministère qui prend et fixe tous les tarifs, aussi bien pour la ville que pour l'hôpital, je suis persuadé que toutes les professions de santé libérale ne vont pas trouver ça extraordinaire. Je vois M. Chassant qui, j'imagine, sera d'accord avec moi. Si vous dites que c'est l'assurance maladie, on simplifie, qui gère tous les tarifs, y compris hospitaliers, vous créez une autorité investie d'un pouvoir tellement considérable, vous finissez par vous demander ce qu'est le job du ministre de la Santé. Bon. Et donc, vous pouvez prendre ainsi tous les sujets. Je pense qu'en fait, on a un paysage qui a certainement ses viscosités, sur lesquelles il faut probablement travailler, est-ce que les choses, mais qui, à la fin des fins, et on y revient toujours, j'aime bien le terme de boussole, on est dans un pays où l'autorité relève du politique. Et je pense que tous les citoyens en France considèrent que quand il y a un problème, il y a peut-être une ARS, il y a peut-être une assurance maladie, une HAS, même une HAS. On se tourne vers les représentants politiques élus, démocratiquement. Il y a des pays scandinaves où on a plus l'habitude des autorités indépendantes et on n'attend pas tout des ministres et du politique. En France, c'est quand même comme ça, historiquement et culturellement, qu'on fonctionne. Donc oui, à la fin des fins, le pilote dans l'avion, c'est un gouvernement et une majorité élue démocratiquement par le peuple. Et donc, on est tous, je pense, maintenant convaincus, et c'est de ça dont on a besoin. Je pense que pour que tout ce paysage institutionnel, les directions centrales, l'assurance maladie, les ARS, les AI, enfin, et tout le monde avance, il faut en effet un cap stratégique. Et c'est probablement ce qui est, je pense, l'objet de consensus auquel on peut s'entendre, c'est que nous avons absolument besoin de, non pas de réinventer un cap stratégique, parce que de surcroît, je suis convaincu que tout le monde est assez aligné sur ce qu'il faut faire. Il n'y a pas tellement de doute sur ce que nous... je pense que c'est construit un consensus dans ce pays sur les grandes lignes. La question, c'est comment on passe d'un objectif à des modalités, à une programmation d'action, à une forme de cohérence générale dans les moyens utilisés et qui s'inscrivent dans la durée pour que les repères soient stables. Voilà. Et donc, je pense qu'il y a absolument besoin de remettre d'avoir ce temps politique au sens très noble du terme qui relève in fine d'un arbitrage politique qui sera assuré par l'État et qui permette ensuite de faire que l'ensemble de l'écosystème institutionnel puisse avancer de bonne manière et j'espère que les conditions en seront créées prochainement.
Professeur Collet, comment la Haute Autorité de Santé peut contribuer à clarifier ce cap stratégique pour les politiques ? Et est-ce que c'est son rôle, finalement, de contribuer à éclairer la décision publique ?
Bien, vous avez raison. L'essentiel des activités de la HAS sont des activités non pas de décision, mais d'avis auprès des pouvoirs publics pour éclairer leurs décisions. On a quelques domaines de décision. Je voudrais quand même revenir, si vous me permettez, sur ce qui a été dit. Effectivement, le pilote dans l'avion, c'est d'abord le ministre. Je veux dire. Il n'y aurait pas eu en France 11 vaccins obligatoires ou le déremboursement de l'homéopathie s'il n'y avait pas une volonté d'une ministre, en l'occurrence Agnès Buzyn, pour l'obtenir. Donc ça, c'est indiscutable. Ensuite, en France, on a une stratégie nationale de santé. Et c'est un sujet sur lequel on devrait tous réfléchir, ceux qui y sont. Est-elle, au travers de son contenu, suffisamment claire pour donner une boussole, pour reprendre le terme de Thierry? Je veux dire, est-ce qu'à partir de là... Je voudrais vraiment insister, c'est une chance d'avoir une stratégie, à condition qu'elle puisse être mise en œuvre et qu'elle corresponde véritablement aussi à des priorités dans le domaine de la santé. On pourra en reparler. En revanche, à mon sens, ce qui a longtemps manqué dans notre pays, ce sont des travaux prospectifs dans le domaine de la santé. Un politique a besoin d'avoir cet outil de rapport prospectif, de savoir où on va aller dans 5 à 10 ans. Je m'adresse à la présidente du COVARS, qui a fait le COVARS récemment un travail vraiment passionnant sur les risques sanitaires dans une vision prospective, ce qui ne peut qu'aider les pouvoirs publics. Or, il me semble que notre pays devrait bénéficier encore plus de ce type de rapport vraiment prospectif dans d'autres domaines. Quant à la HAS a dans ses missions, la réalisation annuelle d'un rapport d'activité, mais les parlementaires ont tenu à ajouter un autre point, avec une analyse prospective, et notamment sur une analyse prospective qui peut conduire à des modifications du système de santé, d'organisation, afin d'en accroître l'efficacité. Donc nous faisons partie de ces acteurs prospectifs. Mais je crois que ça, c'est un point sur lequel il faudra insister. L'État a besoin d'un outil prospectif en santé qui, en ce moment, n'est que parcellaire.
Monsieur Hulot, est-ce que la stratégie nationale de santé, d'une part, le plan peut-être Innovation Santé 2030, d'autre part, sont des outils adaptés, suffisants aujourd'hui, pour fixer le cap en matière de développement de nouveaux médicaments, de développement des thérapeutiques au service des patients?
Alors, pour avoir travaillé 10 ans ensuite, je fais une réponse qui est oui et non. Ma santé 2030, c'était la boussole qui donnait le cap. Et comme Lionel vient très bien de le dire, ce qui manque derrière, c'est cet outil prospectif. Si je regarde la masse d'innovations thérapeutiques qui va arriver, qu'on associe à un vieillissement de la population et à l'augmentation des pathologies chroniques, on a une trajectoire de besoins en médicaments de la population qu'on peut facilement évaluer sur 5 ans, peut-être même au-delà. Et donc, on pourrait avoir un outil prospectif, faire du véritable horizon scanning. C'est pour ça que dans la foulée du plan Ma Santé 2030, l'Agence d'innovation en santé avait été nommée. C'était pour commencer à réfléchir sur cet horizon scanning. Pour l'instant, on n'a pas franchement démarré. Et du coup, on se retrouve avec cette ambition extrêmement élevée. Comment on va s'assurer que nos concitoyens aient accès à l'innovation, à la recherche? On parlait ce matin de l'incroyable terreau de recherche et d'innovation que peut être la France. Et puis en même temps, tous les 15 septembre, PLFSS, on fait un budget de comptable au mois près. Donc on veut être très ambitieux dans la durée, et puis on regarde le radar, le GPS au prochain 50 mètres. Donc ça ne peut pas marcher, et ça crée cette double peine. Ça empêche les innovations d'arriver, et ça fait fuir les produits matures. Donc il y a cette besoin de vision dans la durée, de s'y mettre tous ensemble. Je crois que Nicolas Revel le disait très bien. Sur l'objectif, on va tous être alignés. C'est comment nous tous, professionnels de santé, on se mobilise pour assurer la santé des concitoyens. On va tous être d'accord. Même sur les moyens à mettre en œuvre, je pense qu'on pourrait être relativement d'accord. Ensuite, c'est dans la persistance de la décision. Et en effet, le patron de la tour de contrôle, c'est le politique. Il faudrait qu'on garde le cap et qu'on se donne les moyens au-delà de tranches annuelles du grand happening du PLFSS. Et quelque part, il ne faut pas 2 encéphales ou 2 cerveaux pour se dire réfléchissons en pluriannuel, dans la durée, donnons à chaque administration des lettres d'orientation ministérielle dans la durée et faisons un follow-up dans la durée et ne changeons pas le cap. Par moments, j'ai l'impression qu'on conduit comme quand on essaie de conduire une voiture en Inde à Bombay. Vous savez, on essaie de faire les 5 prochains mètres plus que les 10 prochains miles.
Et nous allons y revenir à la fin de cette table ronde. Vous avez parlé de stratégie nationale, de vision prospective également. Si on revient au niveau du pilotage plus régional, voire territorial, est-ce qu'il faut tout de même revoir cette gouvernance ? Est-ce qu'il y a une charpente décisionnelle à revoir, à simplifier, pour avoir davantage d'efficacité ? Certains diront, est-ce qu'il faut revenir sur l'existence des agences régionales de santé ? Est-ce qu'il faut repenser l'organisation en territoire et, du coup, leur laisser davantage d'autonomie ?
Alors, je crois qu'on tape beaucoup sur les administrations quand, finalement, on ne les fréquente pas. Et puis, maintenant que je les fréquente, je leur tape beaucoup moins dessus parce que, finalement, c'est avec eux que je travaille quand même au quotidien pour faire avancer les sujets. Et je pense que, quand même, la crise Covid nous a montré... En tout cas, moi, j'ai vécu la crise Covid en Île-de-France, l'intérêt de l'Agence régionale de santé, qui a été très proactive et très aidante dans la gestion, finalement, quotidienne, y compris des centres de vaccination, etc. Donc, je ne ferai pas partie des gens qui taperont sur tout est de la faute des ARS, tout est de la faute de cette suradministration. Peut-être qu'il y a de la suradministration, je ne sais pas, je n'aime pas m'exprimer sur des sujets que je ne maîtrise pas, mais dans ma pratique, d'abord de soignante qui a été confrontée aussi à une crise sanitaire importante, et puis ensuite de représentante de ma profession, je crois que la déclinaison de l'administration sur des niveaux territoriaux est absolument indispensable. Pour ce qui est par exemple de l'implantation de notre profession, certaines ARS sont extrêmement aidantes, notamment avec des IPA qui exercent en ville et qui sont en grande difficulté parce que le modèle économique n'est pas encore complètement adapté et qui les aident à la fois à avoir accès à la formation et ensuite à développer des projets de santé en lien avec en plus les besoins du territoire qui peuvent évidemment varier. Une autre forme de structure administrative qui est en train de se développer, c'est bien sûr les CPTS, avec là aussi des CPTS qui sont extrêmement efficientes, efficaces, quand les professionnels de santé arrivent réellement à monter des projets ensemble qui répondent à des besoins du territoire. D'autres, bien sûr, pour l'instant, sont encore que des coquilles vides et j'espère qu'elles se transformeront en véritables outils pour faire parler les professionnels ensemble et répondre à des besoins qui peuvent différer d'une région à une autre. Donc, je ne sais pas si je réponds à votre question, mais en tout cas, je pense qu'on a besoin d'une administration territoriale ou d'appui administratif territoriaux.
CPTS, Communauté Professionnelle Territoriale de Santé, pour ceux qui ne connaîtraient pas ce sigle assez récent encore tout de même. Qui veut répondre maintenant ? Peut-être M. Revel, sur cette logique de réorganisation au niveau des territoires, de remise en cause de certains échelons ? Est-ce que c'est suffisamment efficace ?
Alors, moi, je ne suis pas du tout convaincu de l'intérêt de supprimer les ARS. Je pense qu'on a besoin d'avoir un régulateur qui relève de l'État, parce que je crois beaucoup que le système de santé doit être piloté par l'État. J'entends parfois qu'il faut confier ça aux régions. On n'aura pas le temps d'avoir ce débat-là, mais je pense que confier ça aux régions, ça veut dire que les tarifs évoluent d'une région à l'autre, que les cotisations sociales, du coup, forcément, évoluent d'une région à l'autre. Donc je pense que ce sont des modèles qui ne fonctionnent pas, en tout cas dans notre fonctionnement en France. Bon, donc on a besoin d'avoir une structure représentant l'État en région et en département. Et je crois que les ARS, on peut toujours faire des reproches ici ou là, parce qu'il y a évidemment 1000 situations où on peut se dire ça ne marche pas, ils ne nous répondent pas. Enfin, globalement, je trouve que les ARS, depuis leur création, ont fait le job, et pendant la crise, ont fait le job. Ce dont on a besoin, en revanche, c'est oui, de réussir à mettre un peu de souplesse dans le système. Je ne parle pas de la grande souplesse où tout le monde peut rejouer avec tous les tarifs, toutes les règles qui régissent le fonctionnement des structures de santé, mais un peu de souplesse quand même. Voilà. On l'a introduit, Lionel s'en souvient, parce que c'était quand il était au cabinet de Agnès Buzyn, on a introduit un dispositif qui s'appelle l'article 51, qui a permis de déclencher des expérimentations dans le champ de l'innovation organisationnelle avec des capacités à pouvoir... trouver des modalités économiques innovantes pour permettre à des processus de soins, des prises en charge, des organisations de soins d'émerger. Bon. c'est le type même de la souplesse qui commence et qui doit aller plus loin. Parce que je pense qu'on va avoir absolument besoin dans les prochains temps d'aller plus loin dans notre capacité à adapter nos outils et nos prises en charge. Tout à l'heure, j'ai entendu l'un d'entre vous dire l'enjeu clé dans les prochains temps, ce sera la prévention. Et quand on regarde ce qui nous attend en termes de vieillissement de la population, de falaises épidémiologiques avec le développement des pathologies chroniques, qu'on se dit qu'on ne pourra pas complètement s'affranchir des contraintes économiques. Parce que, certes, les PLFSS, c'est désagréable parce qu'il faut à un moment donné fixer un montant maximum de la progression de la dépense de santé. Hein. Le PLFSS, l'ONDAM, c'est on discute de la progression de la dépense. Bon. On voit bien qu'on va avoir un sujet entre l'augmentation des besoins de santé et notre capacité à financer tout ça. Il y a un levier qui est fondamental pour essayer de faire qu'on fasse le moins mal possible, c'est enfin de pouvoir investir sur ce fameux mot de prévention qui se décline à la fois sur la prévention primaire que chacun connaît, essayer de faire en sorte que chacun soit moins malade, et aussi, et je dirais, surtout le fait que pour tous nos patients chroniques, on ait les moyens de mieux les suivre dans la durée. Et pour le coup, aujourd'hui, notre système, il n'est pas très bien articulé ni organisé pour faire ça. On a des acteurs de ville, on a des acteurs d'hôpital, tout le monde est un peu enfermé dans son couloir. Et nous, par exemple, à l'hôpital, on les reçoit en consulte, on fait des ASDJ, hospitalisation de jour, mais notre capacité à suivre de manière un peu plus structurée dans la durée des patients chroniques, en lien avec nos partenaires de ville, aujourd'hui, moi, je ne connais pas le modèle. Et il faut probablement pouvoir donner de la souplesse et de faire en sorte que très vite, et pas uniquement par des expérimentations, on puisse donner, est-ce que c'est à l'échelle des territoires? Peut-être, à l'échelle de structures comme des hôpitaux, probablement, de pouvoir nous permettre de proposer, avec un contrat, avec une évaluation, avec un bilan médico-économique, des manières de faire un peu nouvelles, sans avoir besoin d'aller chercher des décrets, sans avoir besoin d'aller chercher des lois, pour, à un moment donné, innover et amener des éléments de preuve sur le fait qu'on peut soigner mieux, pour moins cher, finalement, dans la durée, des patients qui vont être très nombreux à arriver dans nos structures dans les prochaines années.
Professeur Collet, du coup, faut-il revoir un petit peu l'organisation territoriale pour repartir des besoins des patients, organiser la prévention et suivre tous ces malades chroniques?
Vous savez, à l'HAS, nous avons élaboré des recommandations de bonnes pratiques. Et on travaille aussi beaucoup sur des parcours, qui ne sont d'ailleurs pas que des parcours de soins, mais des parcours de santé, parce qu'il ne faut pas oublier qu'après la santé, il y a aussi une dimension sociale, médico-sociale. On peut penser notamment aux personnes en situation de handicap. Quand on raisonne en parcours, on raisonne centré bien évidemment sur le patient, depuis sa consultation, on va dire initiale, sa prise en charge, son hospitalisation, la qualité du soin, puis le suivi. Et donc là se pose d'emblée un certain nombre de questions, qui sont les relations ville-hôpital. On ne rentre pas non plus, je le dis tout de suite, dans la question privée-public, parce que ce n'est pas la question, nous, que nous nous posons. Et quand on raisonne comme ça, on raisonne forcément à un niveau territorial. Et donc, il doit y avoir, à un niveau territorial, une structure compétente pour être une sorte d'assembleur, d'accompagnateur. Aujourd'hui, c'est l'ARS. Je suis exactement comme Nicolas Revel, je veux dire, en considérant que les ARS, elles fonctionnent bien, elles ont bien fonctionné pendant la période du Covid, et on leur fait porter un certain nombre de responsabilités. Mais je reprendrai le terme de souplesse. Il est fondamental, effectivement, d'abord de développer les expérimentations. Moi, je crois beaucoup aussi au protocole de coopération qu'il faut vraiment développer. La HAS a publié un avis sur cette question il y a quelques semaines. Je crois aussi qu'il y a un décret qu'on ne doit pas oublier, qui est le décret qui permet aux directeurs généraux d'ARS de déroger un certain nombre de dispositions, qui leur permet de ce fait d'avoir également un pouvoir supplémentaire local qui peut s'adapter. Mais j'ajouterai un dernier point au niveau territorial, c'est qu'on ne doit pas oublier les conseils départementaux dès lors qu'on s'intéresse à l'après-santé au sens sanitaire et qu'on va s'intéresser à ce qu'ils deviennent d'un point de vue social et médico-social. Et là, peut-être y aurait-il une articulation à renforcer entre la dimension ARS et la dimension des conseils départementaux.
Monsieur Hulot, est-ce que cette dimension territoriale, en repartant des besoins des patients, concerne aussi les acteurs du médicament? Quelle vision avez-vous là-dessus?
Mais on le disait tout à l'heure, si on a un politique qui met la boussole avec un cap fixe, qu'on a ensuite chaque administration qui pilote, et il y a un besoin d'exécution territoriale, et honnêtement, les ARS, on l'a vu au moment du Covid, ont fait un travail extraordinaire. Et je crois que tant Nicolas que Lionel l'ont souligné, oui, on peut améliorer certaines viscosités. Je pense que l'exécution territoriale, elle est extrêmement importante. Je voudrais aller une étape plus loin, parce qu'on a parlé de prévention. Le pilotage de la santé, on peut aussi le prendre à l'autre bout de la chaîne. Il y a le pilotage par le citoyen, de suivre les démarches de prévention, d'aller faire les tests de prévention, d'aller suivre les programmes de vaccination. Quand on voit que cette année, la vaccination grippale a été un échec chez les plus de 60-65 ans, alors qu'ils ont 6 à 8 fois plus de chances de terminer aux urgences, qui sont déjà embolisés, on a eu un problème de communication, il faut revenir, il faut éduquer. Quand on voit, en termes de prévention, que certains traitements raccourcissent les arrêts maladie, donc les arrêts de travail, il faut absolument aller éduquer, aller convaincre, parce que ça donnera de l'air au système. Et à un moment, en effet, on sera à ressources limitées. Donc, c'est comment on va pouvoir faire mieux, comment chaque euro investi va être pouvoir plus utile. Et un de nos grands challenges, à l'heure actuelle, c'est de dire, on a un peu tendance à avoir un budget un peu par couloir de nage, et on ne voit pas que ce qu'on investit dans un couloir de nage fait des économies dans les quatre autres. Et donc, c'est cet aspect prospectif, horizon scanning, qui fait partie de la solution. Et là, il faut tous se mettre autour de la table et réfléchir. Et les entreprises du médicament seront au rendez-vous. C'est à ce prix-là qu'on assurera qu'un Français qui a besoin d'un traitement innovant, un traitement mature, il l'aura. C'est en contribuant à la prévention. C'est aussi en éduquant les citoyens, en leur disant, attendez, par moment, moins de médicaments, c'est mieux.
Monsieur Revel, vous voulez réagir ?
Taquiner Thierry en lui disant qu'en fait, tous les coureurs dans leur couloir de nage sont persuadés que si on leur donne à eux plus d'argent, ils feront des économies aux autres.
Donc pour lesquels...
C'est à un moment donné à faire en sorte que, je reviens à cette idée, mais qui est à creuser, quoi. Plutôt que de dire on va mettre tout l'argent sur l'hôpital ou tout l'argent sur les produits ou tout l'argent sur la ville, on essaie de se dire, on prend une pathologie et on essaie de trouver des modes de financement qui vont agréger, en effet... ce qu'il faut de consultations en ville, de prise en charge hospitalière et évidemment de ressources produits ou médicaments pour essayer de construire un combo et d'essayer de voir comment, avec tout ça, on soigne mieux. Parce que moi, je pense que le plus fort vecteur d'économie en santé, c'est la qualité des soins et comment on améliore cette qualité des soins, mais avec l'ensemble des dimensions et des paramètres de la prise en charge.
Entièrement d'accord. Et c'est là où... Le patron de la tour de contrôle est nécessaire, c'est pour nous mettre tous autour de la table, pour avoir cette réflexion, pour l'avoir par parcours de soins, et on sera au rendez-vous, parce qu'on a tous le même objectif. On a besoin de quelqu'un qui catalyse cette discussion. Je vais vous prendre un exemple récemment. Alors, un des récents ministres de la Santé nous avait convoqué en disant « Écoutez, les pénuries, c'est insupportable, on est tous d'accord. On va faire une charte de bonnes pratiques de la distribution du médicament. » Ça s'est fait en 8 jours en mettant toutes les parties prenantes autour de la table. Donc, il faut vraiment qu'il y ait quelqu'un qui prenne ce pilotage, dise maintenant, on se met tous autour de la table et collectivement, quelle solution on apporte et ensuite on exécute.
Il nous reste 2 minutes 30. On va évoquer rapidement 2 leviers possibles pour piloter la politique de santé. Le premier levier, vous en avez déjà parlé, Monsieur Hulot, c'est l'argent. Aujourd'hui, le levier financier, il se concrétise par chaque année des discussions et un vote et le vote d'un objectif national d'assurance maladie. Est-ce que ce fonctionnement sous forme d'ONDAM, cette vision à court terme, est-ce qu'elle est vraiment adaptée aux objectifs que vous venez de citer, notamment au développement d'une politique de prévention? Julie De Victor, j'aimerais bien entendre votre point de vue là-dessus.
Oui, moi, chaque année, je me demande pourquoi on remet en route toute cette mécanique quand même, en plus, qui use des ressources humaines importantes, parce qu'on parlait tout à l'heure de l'administration qui continue, etc. Je suis désolée, pendant les discussions sur le PLFSS, toute l'administration s'arrête pour s'occuper exclusivement du PLFSS. Pendant ce temps-là, tous les autres sujets sont relégués en arrière-plan. Je pense que la prévention, clairement, là, il y a un investissement majeur à faire. Donc, si on considère que ça doit rentrer dans le cadre du PLFSS annuellement, c'est sûr que ça va faire un trou dans les augmentations de dépenses de santé. Sauf que si on se projette à 5 ou 10 ans, comme le disait Monsieur Revel, je pense que la seule solution de contenir les dépenses de santé, ça va être d'investir massivement sur la prévention et la promotion de la santé et aussi, du coup, sur des ressources humaines en charge de la prévention et de la promotion de la santé, et avec les outils, encore une fois, adéquats pour qu'on puisse mener ces missions-là, qui ne relèvent pas, évidemment, exclusivement de la casquette médicale, mais pour lesquelles l'ensemble des professionnels de santé doivent s'investir d'une part et être probablement aussi beaucoup mieux formés. On a parlé maladie chronique, mais personne âgée, avec toutes les spécificités de la personne âgée, je viens d'hospitaliser ma grand-mère de 93 ans, autonome. Si je ne suis pas derrière et que, sincèrement, je n'embête pas tout le monde, en 3 jours, elle est grabataire parce qu'elle reste au lit, parce qu'on lui met la couche d'emblée et qu'on dit, mais attendez, ma grand-mère, elle va aux toilettes, elle se lève et il faut qu'elle mange au fauteuil. Mais pourquoi ce n'est pas fait? Parce que le personnel n'est pas suffisamment formé quand on n'est pas dans un service de gériatrie.
Est-ce que ça veut dire qu'il faut avoir une autre logique pour le financement de la sécurité sociale? Arrêter de raisonner d'année en année, mais avoir un nouvel outil sur plusieurs années? Voter un budget sur plusieurs années? Professeur Collet ou Monsieur Revel, vous voulez répondre?
Non, mais je pense qu'à la fois, on le dit tous, il faut avoir de la vision moyen terme et de pouvoir mettre en cohérence une action avec des capacités de financement qui doivent être visibles et projetées à 3, 4, 5 ans. Bon. Après, une fois qu'on dit ça, on est tous d'accord, on voit bien je pense qu'on ne pourra jamais complètement s'affranchir de cet exercice pénible d'avoir un budget annuel. Parce que si on théorise le fait que tout ça, ça devient un truc à moyen terme, un peu gazeux, et puis on fera les comptes à la fin, on voit bien qu'on aura une dépense de santé qui va évidemment galoper parce qu'elle ne sera pas d'une quelconque manière sous contrôle. Et moi, je reprends ma casquette d'ancien directeur de l'assurance maladie. Moi, je dis attention parce que je veux dire, une dépense à un moment donné qu'on laisse partir, parce que le tendanciel, il prend à la fois des facteurs tout à fait légitimes de besoin de santé, et puis il y a aussi, on le sait tous, dans le système, des problèmes d'efficience, de gaspillage, de prescriptions inutiles, de problèmes d'organisation, tout ça existe aussi. Il y a de la bonne et il y a de la mauvaise dépense. Bon. Et donc, si à un moment donné, on lâche tout et qu'on laisse partir le truc en disant on ne va pas s'embêter avec ça, je veux dire, on fait du déficit. Et quand un système de protection sociale est en déficit, c'est soit des augmentations de cotisations, ce que font les complémentaires, soit c'est du déremboursement. Et c'est ce que l'assurance maladie a vécu au long de ces décennies. Bon. Et donc, faut jamais croire que le déficit est anodin. Il n'est jamais anodin. Voilà. Donc, moi, je continue de penser qu'il faut avoir un instrument de régulation annuel. Dans le PLFSS sur lequel on passe beaucoup de temps, il n'y a pas uniquement des chiffres, il y a aussi des articles de loi qui permettent de faire avancer des choses. Et oui, en effet, il faut essayer d'inscrire ça, non pas dans une vision à 12 mois, mais dans une vision plus moyen terme, adossé à une vraie stratégie, une mobilisation des acteurs. Et d'ailleurs, moi, à la PHP, quand j'ai pris mes responsabilités début 2022, j'ai essayé de projeter une stratégie à 5 ans pour essayer de faire repartir la machine, de réduire mon déficit. Et la première chose que j'ai fait, c'est de négocier avec l'État un contrat à 5 ans. Donc, je ne vais pas vous dire qu'on n'a pas besoin de visibilité pour pouvoir piloter des évolutions, des transformations, des stratégies de rebond.
Un dernier mot peut-être, professeur Collet.
Oui, bon, très brièvement, il y a un objectif qui doit être pluriannuel, mais il ne peut pas effectivement pas se décliner sur une base annuelle. Je crois que c'est une question de bon sens, sinon on est dans une logique d'open bar et qui ne serait pas adaptée. Je dois dire quand même que sur les dépenses, j'ajouterais à ce qu'a dit Nicolas, mais qu'il a évoqué, il y a quand même deux secteurs où tout le monde s'accorde depuis des années à dire que c'est essentiel. On en a évoqué un tout à l'heure, c'est la prévention, et l'autre, c'est la pertinence. Et voilà deux sujets sur lesquels il y a un accord des acteurs. Je dirais, il y a un accord politique et il y a une difficulté redoutable de mise en œuvre et d'une politique de prévention et d'une politique de pertinence qui aurait des conséquences, bien évidemment, sur le plan des dépenses de l'assurance maladie, mais surtout des conséquences positives à terme. Il ne faut pas l'oublier. Donc ça, c'est un sujet qu'on ne doit pas oublier.
Merci beaucoup à vous quatre. Merci infiniment.